L'UTC, l'Université Populaire du Libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web avec Stéphane Crozat et Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Stéphane Crozat et si tout va bien, on est accompagné aujourd'hui d'Audrey à distance. Bonjour Audrey à distance.
Bonjour Stéphane.
Et donc ça fonctionne, et donc merci à Léo à la réalisation qui vient de rendre ce miracle possible. Aujourd'hui, on va parler chaînes éditoriales XML et illustrer ce concept avec le logiciel libre Scénari. On aura pour cela quelques témoignages enregistrés et, toujours si tout va bien, on aura également Loïc Alejandro, directeur de l'association Scénari en direct, un petit peu plus tard. Annonce du plan aujourd'hui, donc on va commencer par un premier principe théorique, celui de la structuration logique de l'information. Ensuite j'enchaînerai sur un principe technique, on va dire, le métalangage XML. On définira ensuite ce qu'est une chaîne éditoriale, et ensuite on abordera quelques concepts associés que sont le « we, ze, wim », « what you see is what you mean », on y reviendra évidemment, le polymorphisme et la rééditorialisation. Alors Audrey, bien que tu sois à distance aujourd'hui, est-ce que l'on peut te poser des questions ?
Mais absolument, je suis à distance, mais je surveille toujours les écrans. Alors, comme d'habitude, vous pouvez poser les questions à Stéphane et puis aux intervenants d'aujourd'hui via l'outil de messagerie instantanée Mattermost sur team.picassoft.net dans l'équipe W01, le canal live, et puis également sur le pad, pad.picassoft.net/p/W01. Et comme d'habitude, je vous surveille aussi sur Twitter et Mastodon avec le hashtag upload. Et pour la suite, vous pourrez retrouver les cours émissions sur Peertube, sur l'instance aperi.tube, et les supports de cours et les approfondissements sont disponibles sur librecours.net.
Alors c'est parti, on attaque avec la première partie, la structuration logique, le concept de structuration logique. Alors je vais commencer par une petite citation, on va voir qu'elle est pas toute neuve et que c'est pas du tout un concept récent sur lequel on va s'appuyer. Un document peut être décrit comme une collection d'objets comportant des objets de plus haut niveau composés d'objets plus primitifs. Les relations entre ces objets représentent les relations logiques entre les composants du document. Par exemple, un livre est divisé en chapitres, chaque chapitre en sections, sous-sections, paragraphes, etc. Une telle organisation documentaire est appelée représentation de documents structurés. Alors cette définition est issue du livre Structured Documents qui date donc de 1989. En fait, ces concepts de structuration documentaire, eh bien, ils datent, ils sont même antérieurs, hein, ils datent du début des années 80, voire de la fin des années 70. Il se trouve qu'on les a un petit peu oubliés en quelque sorte, je vais y revenir un peu dans peu de temps. On les a un petit peu oubliés parce que la bureautique, eh bien, s'est imposée et en quelque sorte a tendu à masquer cette façon de représenter l'information. Alors commençons par définir la structuration logique. On va appeler structuration logique d'un contenu une inscription qui explicite la structure de ce contenu en fonction de son organisation et de ses attributs. Donc on va chercher à caractériser, à décrire le document, non pas en fonction de la façon dont il va être présenté, comme on a un petit peu l'habitude de le faire avec un traitement de texte, mais en fonction de la façon dont il est organisé. Et on va donc parler de documents structurés ou de documents abstraits lorsque l'on va représenter un document en fonction de sa structure logique. Alors on va prendre un exemple tout de suite. Hein. Imaginons que je souhaite représenter un exercice, que je souhaite représenter un document de type exercice. Eh bien, plutôt que de dessiner en quelque sorte cet exercice directement sur la page comme je le ferai avec un traitement de texte, eh bien, je vais organiser mon information, par exemple en créant un premier bloc que j'appellerai exercice, qui contiendra lui-même un sous-bloc énoncé, par exemple soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés. Ensuite, on aura un autre bloc question, donner la valeur des autres angles du triangle, un troisième sous-bloc indice, la somme des angles d'un triangle est égale à 120 degrés, et ensuite un quatrième sous-bloc solution qui donnera la solution 90 et 60 degrés. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une structure logique, et donc c'est le fait que l'information est organisée en fonction, eh bien, de sa structure. On va parler de structuration physique ou de rendu physique, quand au contraire, on va s'attacher à la mise en forme du contenu. Lorsque l'on va décrire en fait la façon dont le contenu doit être présenté sur un support donné. Alors je vais un petit peu moins m'y attarder puisqu'en fait toutes et tous, c'est plutôt ce que l'on est habitué à faire lorsque l'on produit un document. En fait, c'est on inscrit les caractères sur la page de notre traitement de texte favori et puis ensuite on va les mettre en forme, on va les mettre en gras, on va les souligner, on va leur donner une taille de police, etc., etc. On va donc définir la façon de les présenter, leur structuration physique. Une propriété fondamentale que l'on va utiliser dans les chaînes éditoriales que je vais présenter après, c'est que, donc première propriété, il est possible de calculer une ou plusieurs structurations physiques, un ou plusieurs rendus physiques, à partir d'une et une seule structuration logique. Donc si l'on dispose d'une structuration logique bien faite, on va pouvoir, à partir de celle-ci, obtenir plusieurs rendus physiques. C'est donc ce que j'appellerai tout à l'heure le polymorphisme. On va également pouvoir poser qu'il est possible de calculer d'autant plus de structuration physique que la structuration logique est indépendante de ses supports de présentation. Un petit peu ce que je viens d'appeler bien faite, c'est-à-dire que si l'on a bien décrit la structure du contenu en restant suffisamment éloigné de la façon de le rendre physiquement, eh bien, dans ces conditions, on va avoir la possibilité de calculer diverses structurations physiques, divers rendus physiques. Je reviendrai également sur cette séparation entre structuration logique et structuration physique à travers l'opposition entre deux concepts, celui du « WYSIWYM », « What you see is what you mean », associé à la structuration logique, et donc que l'on va opposer en quelque sorte à celui du « WYSIWYG », « What you see is what you get », dont vous aviez peut-être déjà entendu parler, et qui est lui associé à la structuration physique. On va écouter un premier extrait d'exemple d'usage d'une chaîne éditoriale. Alors ce sont des extraits que j'ai remontés à partir d'une longue conférence réalisée aux rencontres Scénari et qui décrivent donc comment la chaîne éditoriale Scénari est utilisée pour le site servicepublic.fr.
Eh bien bonjour à tous, on est ravis d'être présents ici pour vous faire un petit retour d'expérience sur cette année d'utilisation de Scénari au sein de Service Public.
Puis nous, Service Public, on essaye de traduire tout ça en langage simple. On ne respecte pas forcément les termes juridiques et technocratiques. Par exemple, on va dire refaire sa carte grise au lieu de procéder à la démarche de renouvellement de certificat d'immatriculation. Donc ça, c'est un peu notre travail au quotidien. Au niveau de notre audience, donc là on va cramer, hein, on est à peu près à 1 million de visites par jour.
On a commencé à introduire Scénari dans la chaîne de production de Service Public. Et on a eu notre dernière refonte graphique en 2015, qui a priori sera entre guillemets presque la dernière, puisqu'on est sorti des méthodes traditionnelles pour entrer en mode agile. Donc aujourd'hui, le corpus qu'on a sur Coperia, donc désolé, je vais utiliser Coperia, je ne vais pas parler de Scénari, mais vous aurez compris que c'est la même chose. On a précisément 26 167 items sur la partie droit et démarches. Est-ce que je demande en France? Est-ce que je suis en métropole? Est-ce que c'est pour une personne majeure? C'est un renouvellement? C'est un passeport qui est en fin de validité, par exemple? Mais il est encore valide. On va poser des conditions. C'est-à-dire, cette situation-là, je ne l'affiche que si la condition en France est activée.
Alors, Stéphane, je voudrais essayer de revenir sur cette histoire de structuration logique de l'information. Alors, la semaine dernière, dans le cours d'introduction à l'ingénierie documentaire, tu nous expliquais qu'il existait 3 paradigmes d'écriture numérique. Il existe l'approche logique, c'est-à-dire là où l'information est codée sous forme de propositions logiques faciles à manipuler pour les machines. Il y a aussi l'approche sémiotique, où l'information est codée selon une représentation sémiotique facile à interpréter pour les humains. Et puis l'approche documentaire, qui est cette fois un compromis entre les deux précédentes approches, c'est-à-dire que les contenus sont représentés sémiotiquement et puis qu'ils sont associés à des balises qui permettent leur manipulation par le calcul. Alors, aujourd'hui, nous apprenons que les chaînes éditoriales XML se fondent sur algorithme que tu appelles donc la structuration logique des contenus, qui explicite donc la structure du contenu plutôt que sa présentation. Est-ce que cela signifie donc eh bien, qu'on se focalise sur cette partie logique, qu'on laisse le sémiotique de côté, que l'on ne s'intéresse qu'à l'organisation du contenu plutôt qu'à la représentation de son sens et à sa présentation ?
Alors merci de cette question Audrey, parce qu'en fait effectivement la terminologie fait qu'on pourrait s'en mêler un petit peu. En fait, le concept de structuration logique dont je parle à l'instant, dont je parle aujourd'hui, renvoie bien au paradigme documentaire dont on a parlé la semaine dernière. Néanmoins, tu as un petit peu raison, c'est-à-dire que lorsque l'on dit que lorsque l'on parle de la structuration logique, en fait, effectivement, on va en particulier s'intéresser à ce que l'on aura représenté en termes de structure et donc ce que l'on sera en capacité de calculer. Ce qui est important là-dedans, c'est qui est le « on ». Eh bien, le « on », effectivement, c'est en quelque sorte l'informaticien qui construit le système technique. Lui, d'une certaine façon, ne va pas se préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur de la structure. La seule chose que le logiciel va faire, eh bien, c'est de manipuler cette structure sans se préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tout ce qui va faire partie du paradigme sémiotique, les morceaux de texte, les images, les vidéos, on va les manipuler, mais en quelque sorte comme des boîtes noires, on va se contenter de les afficher. Et ce qui va nous intéresser, encore une fois, hein, le « nous » ici, c'est dans la conception du système, c'est plutôt de la façon dont on va les manipuler. Donc c'est bien effectivement la couche logique, calculatoire, sur laquelle on va insister. Par exemple, si je reprends mon exemple d'exercice de tout à l'heure, eh bien, on avait un énoncé, un indice, une solution. En fait, j'ai donné des exemples de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais quelque part, ça n'avait pas tellement d'importance d'un point de vue du système. Le système sait qu'il a un énoncé, un indice, une solution. À partir de là, on va pouvoir prendre des décisions de mise en forme, de rendu, tout simplement les afficher les uns à la suite des autres, par exemple pour produire un document imprimable. Mais imaginons que nous soyons dans le cadre d'un document que l'on va consulter en ligne, par exemple une page web ou un ensemble de pages web. On pourrait très bien décider de dire « je présente l'énoncé ». Je présente l'indice quelques secondes après et je ne présente la solution que si la personne qui utilise le contenu me le demande. Voilà l'idée générale de la façon dont ça se réarticule ce que je viens de présenter cette semaine par rapport à ce que l'on a vu la semaine dernière. Alors, pour faire le lien avec la suite, une question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les techniques, quelles sont les technologies que l'on va mobiliser pour réaliser ça. En fait, il y en a plusieurs, on pourrait le faire avec de nombreuses technologies. Il se trouve que quand sont nées les chaînes éditoriales, la technologie dominante pour faire cela s'appelait SGML. Il y avait aussi TechLaTeX qui permettait de faire des choses, mais on va dire que la technologie qui a vraiment pris le pas à ce moment-là s'appelait SGML. Alors SGML, c'est un truc pas très connu, je ne vais pas en parler longtemps, ça a juste donné naissance à un truc un tout petit peu plus connu, qui est HTML. Bon, ce serait une autre histoire, je vais pas rentrer dans le détail de ça. Ce qui est important pour nous, c'est que en 97-98 arrive le langage XML. Et donc c'est essentiellement ce langage qui va structurer les chaînes éditoriales, donc que j'ai en particulier appelé XML. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi à travers quelques principes techniques. C'est pas extrêmement simple à la radio, puisqu'à un moment là, on est dans du langage et dans de la syntaxe, donc c'est pas mal de le voir, mais je vais essayer de le faire néanmoins. Alors, XML, en fait, c'est un métalangage à balise. Alors, on va revenir un petit peu sur ces deux définitions. Un métalangage, ça veut dire que, en fait, XML, c'est pas directement un langage. Ça nous dit pas, par exemple, dans un document, on doit avoir des parties, on doit avoir des chapitres. Dans un exercice, on doit avoir des énoncés ou des questions, etc. XML nous dit rien de tout cela. Il nous définit simplement des règles générales qui, elles-mêmes, servent à définir des langages. Donc, c'est en cela que c'est un métalangage. XML est un langage qui sert à créer d'autres langages. HTML, en revanche, hein, pour donner un contre-exemple, HTML, c'est bien un langage. C'est-à-dire qu'en HTML, il existe un certain nombre de balises. La balise body qui sert à donner le corps de la page, la balise P qui sert à créer un paragraphe, la balise B, par exemple, qui sert à mettre quelque chose en gras, etc. Donc HTML contient un ensemble de balises qui définissent a priori le langage que l'on peut utiliser. On n'a pas le droit d'inventer ses propres balises. J'ai pas le droit de créer une balise Stéphane si j'ai envie en HTML. Si je fais cela, ça n'est plus du HTML. En revanche, en XML, eh bien, encore une fois, il n'y a pas de balise définie a priori. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est de définir les balises dont on a besoin. J'ai donc dit que XML était un métalangage à balise, hein, donc voilà la raison. Balise parce que c'est la technique d'écriture qui va être utilisée, et métalangage parce que ça sert à définir un langage. Alors, encore une fois, montrer une balise à la radio n'est pas très simple, mais je vais le faire néanmoins à travers un petit exemple. Imaginons que je veuille créer un cours, un document qui représente un cours. Eh bien, je vais devoir choisir les balises qui vont servir à structurer, à définir la structure de ce cours. Par exemple, je vais avoir une première balise qui va encadrer toutes les autres, qui va s'appeler course. Alors en XML, comment on écrit ça? On met un petit signe inférieur, on écrit le mot course, ici que j'ai choisi d'écrire en anglais. Ensuite, on met le signe supérieur, on laisse passer de l'espace, et à la fin, on va venir fermer avec une balise qui ressemble, avec un signe inférieur, un slash, à nouveau le mot course et un signe supérieur. Je ne vais évidemment pas continuer de décrire tout le document XML à l'oral, ce serait un petit peu fastidieux. Si vous avez envie de voir du XML, vous trouverez facilement des exemples sur le web, par exemple, sur la page Wikipédia du XML. Avant peut-être de passer à la suite et vraiment à la description des chaînes éditoriales, je vais juste préciser que XML a servi à beaucoup, beaucoup de choses, hein, pas simplement à faire des chaînes éditoriales. D'une façon générale, encore une fois, c'est une syntaxe qui permet de décrire des documents ou des données de façon non ambiguë. Encore une fois, on va avoir un accès à la structure facile à calculer. Ce sont des documents qui sont lisibles, et ils ont un avantage, c'est qu'ils sont lisibles, si, encore une fois, ils sont bien conçus, à la fois par les humains et par les machines. Les humains peuvent arriver à interpréter un document XML, même si en général c'est pas le plus facile, mais on peut les lire, et les machines peuvent procéder à des calculs sur ces documents. Et enfin, la troisième propriété, c'est que ce sont des documents, c'est une façon de représenter l'information qui est dite passive, c'est-à-dire que ça ne décrit pas comment, quels sont les algorithmes, quels sont les programmes que l'on va devoir appliquer à la structure de données. Ça donne des poignées, hein, on va parfois utiliser le mot poignée à la place de balise, ça donne des poignées à des programmes pour que ceux-ci soit en mesure d'effectuer des calculs. Alors, on va avoir un second extrait d'usage d'une chaîne éditoriale. Donc, ça a été enregistré par Jean-Philippe Claude de Vetica. C'est donc une utilisation de la chaîne éditoriale Scénarii d'Occhiel dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans la sécurité sanitaire pour les aliments.
Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Claude. Je travaille dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. C'est un domaine extrêmement réglementé. Et du coup, nous produisons au niveau de mon cabinet un portail de la réglementation hygiène alimentaire regroupant les textes européens et français. Et ce, grâce à la chaîne éditoriale Scénarii et particulièrement le modèle d'Occhiel. Pourquoi est-ce que nous avons adopté ce modèle ? D'une part, il y a le premier principe, c'est le principe de Scénarii, qui consiste à découper toute l'information qu'on peut saisir en différents grains de contenu, en fragments, qui sont ensuite liés les uns aux autres. Et comme dans des textes réglementaires, il y a souvent des articles qui renvoient à d'autres articles ou d'autres textes, cette construction nous permet de lier très facilement les différentes parties du portail entre elles. D'autre part, ce découpage en fragments permet de gérer de nombreux fragments qui vont être uniques. Par exemple, le renvoi vers le texte original, le texte officiel, qui va être donc une URL. Cette URL peut être amenée à changer dans le temps. Et lorsqu'elle va être changée, on aura à la changer à un seul endroit. Et les 200 à 300 endroits où elle est référencée dans notre base de données, le référencement se mettra à jour automatiquement à la nouvelle génération du portail réglementaire. Autre point, la possibilité de créer des conditions de publication sur les fragments et sur les paragraphes, sur les différents blocs de contenu, qui nous permet, tout en ayant une base de données unique et sur une même page, en fait, web, dans le même visuel, des paragraphes qui vont être des paragraphes sur lesquels on aura la version intégrale des textes réglementaires, c'est-à-dire un copier-coller du journal officiel, et un autre paragraphe qui présentera une synthèse, les textes réglementaires étant souvent un peu compliqués, on peut rapidement les simplifier et faire des versions plus pédagogiques. Et à la publication, on aura la possibilité d'afficher l'une ou l'autre des versions, dans certains cas avec un simple bouton qui permettra d'alterner entre les deux types de publications. Enfin, le moteur de recherche est très rapide et puissant et hiérarchise d'autre part les pages trouvées, ce qui fait que quand on recherche des termes particuliers, non seulement il va nous donner les 50 endroits où le texte est cité, mais il va nous dire qu'a priori, telle ou telle partie de texte réglementaire le traite plus particulièrement par justement une indexation intelligente des pages. Pour conclure, je dirais que Scénari permet à une seule personne, entre autres moi, de gérer un site internet qui fait déjà 1000 pages web et qui est découpé en fragments qui sont au nombre de 4000, et tout ça avec une facilité de gestion et de publication extrêmement puissante.
Alors, on vient d'entendre donc Jean-Philippe Claude de Vestica qui venait de décrire son utilisation de Docker, donc un modèle Scénari dont Stéphane, tu vas nous parler un petit peu plus tard. Alors, avant d'en venir à cette partie, je voudrais de mon côté revenir sur XML, donc ce dont tu parlais juste avant. Donc, on a vu que XML était un métalangage qui définit le format que doivent adopter les langages qui vont représenter l'information avec des balises. Et tu venais de dire aussi que l'on pouvait se représenter les balises comme des poignées de calcul que l'on ajoute à un contenu pour le rendre manipulable logiquement par l'ordinateur, par la machine. Alors, si l'on veut encore une fois bien marquer la différence entre XML et HTML, est-ce que si je suis cette analogie, je peux dire que XML définit le fait qu'il existe des poignées et que les poignées doivent être placées de telle ou telle manière ou peuvent avoir telle ou telle propriété, et est-ce que ensuite HTML utilise des poignées d'un certain type, d'une certaine forme, avec des propriétés spécifiques? Est-ce que c'est correct de le comprendre ainsi?
Parfaitement, Audrey, c'est exactement ça. Hein. Donc l'idée d'XML, c'est que l'on va définir soi-même la structure de son langage. Et à travers peut-être le témoignage que Jean-Philippe nous a fait précédemment, eh bien, on voit que il va avoir des usages, des besoins d'organiser, de structurer, de manipuler son information, qui sont assez spécifiques à son métier, à sa façon d'aborder les choses. Et donc, en cela, il va pouvoir, en quelque sorte, définir ou manipuler ses poignées d'une façon spécifique à son contexte d'usage. Merci Audrey donc de cette reformulation, et on va enchaîner avec la troisième partie et rentrer dans une définition peut-être un petit peu plus concrète de ce qu'est une chaîne éditoriale. Alors avant cela, je vais revenir peut-être un tout petit peu en arrière sur le concept même de chaîne éditoriale, qui trouve en fait son origine dans l'édition et dans la presse. Avant même que l'on en parle, comme je le fais ici, comme un outil technique d'organisation de l'information, eh bien, on peut voir que la chaîne éditoriale, c'était en quelque sorte une méthode, un processus qui permettait d'organiser les tâches depuis la production à la publication, hein, même si on se place avant l'informatisation ou la numérisation de la production documentaire. Eh bien, on a plusieurs métiers qui sont impliqués. Il y a la personne qui écrit, il y a une personne qui va rédiger, une personne qui va corriger, une personne qui va mettre en forme, une personne qui va corriger cette mise en forme, une personne qui va organiser la machine de rendu, qui peut être par exemple une imprimerie, etc., etc. Une chaîne éditoriale, c'est donc l'ensemble de l'organisation de ces travaux. En quelque sorte, au début des années 80, comme je le disais, quand on a commencé à se poser la question de la production massive de documents, hein, dans un certain nombre de contextes, à travers l'informatisation, donc plutôt de l'informatisation de la production massive de documents, eh bien, on s'est reposé la question de ces chaînes de production, et on a, à partir de ce moment-là, cherché comment les organiser. Et une des façons de le faire, eh bien, ça a été justement, on reboucle avec ce que l'on a vu précédemment, plutôt que de travailler sur des documents déjà ancrés en quelque sorte dans leur rendu physique final, eh bien, on s'est rendu compte que travailler sur ces formes intermédiaires avec ces poignées, ces balises, était une façon d'optimiser en quelque sorte les processus de production. On a, je précise que l'on a beaucoup travaillé sur ce sujet à l'UTC, et l'exemple de la technologie Scénari qu'on a commencé à citer à plusieurs reprises, eh bien, a été élaboré ici à l'UTC à partir de 1999. Alors, si je reviens sur une définition, et puis on va prendre un petit exemple. Donc, on peut définir une chaîne éditoriale XML, donc comme un système informatique, donc là on est bien sur une informatisation, qui va donc permettre la production de documents structurés logiquement. Alors, on va utiliser pour ça un certain nombre de principes et outils. Donc, le premier outil, c'est un éditeur WYSIWYG. Donc, j'ai dit que je reviendrai sur cette terminologie, mais l'idée du « what you see is what you mean », c'est-à-dire que l'on va organiser la production de l'information, non pas en fonction de la forme que l'on veut que cela ait, mais en fonction de ce que l'on cherche à dire. Ça renvoie aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Si on veut produire un exercice, eh bien, on ne va pas le centrer sur une page, le mettre en gras ou que sais-je, on va tout simplement dire que c'est un exercice. On l'a vu tout à l'heure, par exemple avec ce que nous citait Jean-Philippe, eh bien, s'il manipule des procédures, s'il veut manipuler des procédures, eh bien, il va définir des procédures, ces différentes étapes, il ne va pas d'emblée définir quelle forme ça a graphiquement. Si on revient encore sur le premier exemple que l'on a entendu, celui de servicepublic.fr, si vous avez déjà consulté ce site, eh bien vous voyez qu'il y a aussi un certain nombre de procédures, un certain nombre de types documentaires. Eh bien, en fait, leur forme ne dépend pas de la façon dont ça a été écrit. En conséquence, on va avoir une seconde brique qui est la publication donc polymorphe, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité, à partir de ce que l'on a écrit, l'exercice, la procédure, on va avoir la possibilité d'avoir un rendu, donc une génération, à la fois de contenu, par exemple pour le web, de contenu imprimable, d'un diaporama si on fait cours ou si on doit faire une présentation commerciale, etc., etc. La troisième brique, le troisième principe, on pourrait dire, qui vient compléter, c'est le concept de rééditorialisation sans recopie, c'est-à-dire la possibilité de découper, désagréger notre document et de le réagréger, de le réorganiser différemment. Je vais revenir dans les parties 2 et 3 sur ces concepts de WYSIWYG, de polymorphisme et de rééditorialisation. Et donc on va enchaîner avec un extrait de... Eh bien non, on a Loïc directement au téléphone. On est donc en direct avec Loïc. Bonjour Loïc, est-ce que tu nous entends ?
Ouais, j'entends parfaitement. Salut à tous.
Bonjour. Bonjour Loïc. Eh bien, écoute, je te présente très très rapidement. Je te laisse compléter si nécessaire. Donc, tu accompagnes un certain nombre de projets Scénarii à travers ta petite entreprise unipersonnelle qui s'appelle Odigi. Tu es directeur de l'association Scénarii et je crois également que tu connais un petit peu Graphite puisque tu as été président de l'association il y a quelques années de cela.
Ouais, dans une galaxie très lointaine.
Eh bien, je te laisse nous présenter un ou deux exemples d'usage de Scénarii dont tu as entendu parler en tant que directeur de l'association.
Ouais, alors c'est un usage, bon, on est beaucoup moins complexe que ce que peut faire Ladila ou Jean-Philippe dans son usage, mais c'est quand même très intéressant parce que là, on est vraiment plus dans le cas très local, très localisé et assez simplifié. Au Bénin, en fait. C'est un prof de sciences de la Terre au Bénin, qui est dans une région plutôt rurale où Internet n'arrive pas, mais il y a quand même une salle informatique dans son établissement. Et en fait, il nous expliquait, lors des dernières rencontres Scénarii, un petit peu son usage, l'usage qu'il faisait, et pourquoi Scénarii, concrètement, était très, très intéressant pour lui. Alors lui, il utilise Opal, c'est un modèle qui sert à faire de l'e-learning, qui sert à faire des cours de type, on va dire, académique. Et le premier intérêt qu'il voit à Opal, c'est évidemment la richesse de structuration et de contenu. En gros, lui, il installe Opal sur son ordinateur et il a à disposition un éditeur qui lui permet de mettre ses textes, ses images, ses photos, ses vidéos, toutes sortes de documents riches, toutes sortes de quiz, d'exercices de type ordonnancement, catégorisation, de QCM, de QCU. Et tout ça lui permet d'obtenir un rendu super professionnel puisque lui, il ne s'occupe pas du tout du rendu graphique. Lui, en tant que professeur, ce n'est pas un designer. C'est un professeur, donc il transmet son savoir. Il utilise l'éditeur d'Opal pour ça. Ensuite, il clique un bouton et il obtient la présentation, le diaporama de son contenu. Il clique un autre bouton, il obtient le document PDF qu'il peut imprimer s'il veut et distribuer à ses élèves. Et il clique un autre bouton, un troisième bouton, et il obtient le site web de ce contenu. Et c'est ça qu'il utilise. Et c'est là où Scénari aussi est très important pour lui, parce que la plupart des solutions, on va dire e-learning ou de production de contenu d'enseignement qu'il a à sa disposition autour de lui, sont des solutions en ligne, alors que lui, il est dans un contexte où il n'y a pas d'Internet. Et l'avantage de Scénari, c'est qu'il peut travailler sur son ordinateur, générer son contenu sous forme de site web, juste déposer ou copier ce site web, un site web statique, c'est juste un dossier sur le file system, le copier sur une clé USB et copier ensuite ce contenu sur chaque poste de sa salle informatique et ainsi faire travailler ses étudiants et ses étudiantes, ses élèves, directement sur un contenu riche, professionnel, structuré, cohérent et graphiquement, on va dire, agréable à voir, puisque c'est l'outil qui s'est chargé de gérer, de transformer son contenu en site web. Et donc les élèves travaillent sur des ordinateurs, et tout ceci sans Internet, puisque Scénari permet de travailler en mode complètement offline.
Merci beaucoup Loïc pour ce témoignage. Merci. Alors, j'essaie de faire un petit lien entre ce que Stéphane expliquait avant et puis justement ce que tu viens de nous expliquer également. Alors, Stéphane expliquait qu'une chaîne éditoriale XML s'appelait une chaîne parce qu'il s'agit effectivement d'une suite d'opérations qui forment donc une chaîne en plusieurs étapes qui composent le processus de production documentaire. Et toi, Loïc, donc tu accompagnes des projets Scénari comme celui que tu viens de nous décrire. Est-ce que, si cette question a du sens, à quel endroit de la chaîne interviens-tu? Il y a un endroit, plusieurs endroits.
Alors, moi, dans le retour d'expérience dont je vous ai parlé, moi, j'ai pas vraiment intervenu puisque voilà, c'est un prof qui s'est débrouillé tout seul. Alors, par contre, dans mon activité, Stéphane disait que d'une part, je suis directeur de l'association Scénari qui fédère les utilisateurs, les prestataires, les concepteurs, un petit peu tout le monde qui gravite autour de Scénari. Mais j'ai mon autre activité qui est de faire un travail de prestation autour de Scénari. Et principalement, mon travail de prestation, c'est de créer des habillages graphiques. Quand je disais tout à l'heure que ce prof au Bénin, c'est pas un designer, il se concentre seulement sur son contenu et c'est l'outil qui transforme son contenu WYSIWYN, c'est-à-dire ce qu'il a voulu dire, qui transforme ce contenu en site web, on va dire pro, agréable à lire, qui est responsive design et ainsi de suite. La machine transforme ce contenu dans un aspect graphique qui est celui qui est par défaut. Or, la plupart du temps, les utilisateurs et utilisatrices de Scénari, quand c'est des organisations, ils aimeraient bien avoir leur logo, ils aimeraient bien avoir leur couleur, et donc c'est là où ils m'appellent, où ils appellent un prestataire Scénari, ils disent, ben voilà, moi je veux bien, l'aspect par graphique par défaut, il est très bien, mais moi je voudrais un autre aspect graphique. Et c'est là où, moi en tant que prestataire Scénari, et on va dire professionnel du design dans le monde du Scénari, je peux leur créer un plugin qui incorpore leur logo, qui incorpore leur couleur, leur fonte, tout ce qu'ils veulent. Et au moment de cliquer sur le bouton, comme je disais tout à l'heure, le prof clique sur un bouton, ça transforme son contenu en site web. Et bien là, ces gens-là, ils auront bénéficié du plugin que je leur ai fait personnalisé. Ils cliquent sur le bouton et hop, ils auront non pas l'aspect graphique par défaut, mais l'aspect graphique avec leur logo et tout. Donc c'est là où moi j'interviens pas du tout dans la conception des contenus, mais je peux intervenir dans le rendu graphique.
Ok, merci beaucoup Loïc de ces précisions et ça va me permettre d'enchaîner avec de revenir en fait sur ce que j'expliquais avec le terme de WYSIWYN et le terme de polymorphisme, donc sur lesquels je tiens maintenant à insister dans la fin de cette intervention. Donc WYSIWYN, polymorphisme et rééditorialisation. Alors d'abord WYSIWYN. La plupart des systèmes d'édition numérique que l'on connaît tous, hein, nos traitements de texte typiquement, se fondent sur un paradigme dit du WYSIWYG, hein, qui a gagné en quelque sorte la bataille de la représentation de l'information au début des années 80. Ce paradigme, donc what you see is what you get, littéralement en français, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Cette approche, eh bien, elle consiste en quelque sorte à faire en sorte que la machine que l'on utilise pour écrire simule au maximum le rendu que l'on obtiendra à la fin. On peut considérer hein, que c'est vraiment un ancrage dans ce que j'ai appelé la semaine dernière le paradigme sémiotique, c'est-à-dire que l'enjeu est de rester le plus proche possible des signes de la façon dont les documents que l'on va utiliser eh bien, présentent des signes au lecteur final. Donc l'idée, c'est qu'on va séparer le moins possible la représentation que le lecteur va voir à la fin de ce que la personne qui écrit eh bien, produit en tant qu'auteur. Donc ça, c'est le paradigme du WYSIWYG, encore une fois, que l'on connaît tous. Hein. J'avais précisé également que la semaine dernière qu'elle n'était jamais parfaite, elle ne pouvait jamais être parfaite, puisqu'il y avait toujours un calcul entre les deux, mais qu'on pouvait effectivement viser à une simulation très proche, qui permettait de rendre très proche le rendu final de ce que l'on écrivait. Dans le paradigme du WYSIWYG, what you see is what you mean, eh bien en fait, on va faire l'inverse, on va faire exprès de rendre, d'avoir une forme d'écriture, une façon d'écrire qui soit différente, voire même très différente du rendu que l'on obtiendra à la fin. On va donc partir de la structure logique, hein, d'où le lien avec ce que j'ai présenté précédemment. L'enjeu de cette séparation, eh bien, notamment, hein, Loïc, tu l'as expliqué dans ton témoignage, ça va être la possibilité de permettre de découpler la façon d'écrire, la façon d'organiser l'information et la façon de la rendre graphiquement. Alors à travers les deux témoignages que tu nous as donnés, hein, on peut en illustrer les intérêts. Le premier, c'est que je peux très bien être un professionnel de l'écriture et de la structuration de l'information. Personnellement, en tant qu'enseignant, eh bien, je peux me considérer comme un tel professionnel. Pour autant, je ne suis absolument pas un professionnel du rendu graphique. Je sais mal faire du HTML, je sais encore moins bien faire du HTML lisible, bien structuré, bien organisé en CSS. Toi, à l'inverse, eh bien, Loïc, tu as la capacité de mettre en forme des contenus, et pour autant, tu n'as pas forcément, dans certains cas ce sera le cas aussi, mais disons pour le jeu que je joue là, tu n'as pas forcément la compétence d'organisation, d'écriture et de structuration de l'information. Donc en quelque sorte, on va pouvoir constituer un couple de compétences, celui qui sait écrire et organiser l'information, celui qui sait rendre cette information graphiquement. Et puis, celui qui sait rendre cette information graphiquement, donc sur le web. Mais on pourrait également avoir une autre compétence qui est celui qui sait organiser l'information graphiquement sur le papier, etc., etc. Je reviendrai un tout petit peu encore une fois sur, je réinsisterai une dernière fois sur ce concept quand j'arriverai sur le polymorphisme dans la partie suivante. Je voudrais juste conclure cette partie sur un point essentiel qui est l'orientation métier des documents que l'on va produire dans un cadre WYSIWYG. Lorsque l'on est dans un cadre WYSIWYG, eh bien, en quelque sorte, ce qui nous permet de donner réalité au document, c'est la forme graphique qu'on lui donne en écrivant. Hein. Vous écrivez dans votre traitement de texte, vous mettez en gras, vous centrez, vous soulignez, et c'est grâce à ça que vous exprimez ce que vous avez envie de dire. Lorsque vous êtes dans un contexte WYSIWYG, puisque vous ne disposez plus de cette possibilité de mettre en forme, donc par exemple, vous ne pouvez pas dire « Ah, bah, cette information-là, je vais la mettre en rouge », en quelque sorte, on est interdit de mettre en rouge ou de mettre en gras, eh bien, on va se reposer sur autre chose, on va se reposer sur une organisation métier de notre information. On le retrouvera dans les exemples que j'ai pris depuis tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'un exercice, par exemple, c'était un énoncé, une question, un indice, qu'une procédure, c'était une suite d'étapes, avec peut-être des étapes importantes, des étapes secondaires, des sous-étapes, etc. Tout ça, en fait, c'est un typage de l'information qui va être directement lié à la façon dont elle va être utilisée dans tel ou tel métier. Je conclurai sur ce dernier exemple. Loïc nous parlait du modèle Opal utilisé au Bénin, notamment utilisé au Bénin, il est utilisé à de très, très nombreux autres endroits, y compris en France. Eh bien, dans ce modèle-là, en fait, on va organiser notre information. Donc, c'est un modèle pédagogique qui sert à faire des contenus de cours. D'ailleurs, si vous avez consulté les contenus sur LibreCours, ils sont construit avec ce même modèle Opal, eh bien à l'intérieur, on va manipuler un langage métier. Donc j'ai appris, pour faire des contenus sur LibreCours, à manipuler ce langage Opal, c'est-à-dire que je crée des informations de type cours, de type exercice, de type quiz. À l'intérieur d'un cours, je vais avoir des sous-informations de type définition, de type exemple, de type méthodo, etc., etc., etc. Et donc, le langage que j'utilise lorsque j'écris, eh bien, il n'est pas fait de gras, d'italique, de rouge, il est fait de définitions, d'exemples, de remarques, etc., etc. C'est ce que l'on entend par principe de création orientée métier. Alors, Une des conséquences de ces principes de création orientée métier, eh bien évidemment, comme il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de façons de créer des documents, eh bien, du coup, il y a également beaucoup, beaucoup de chaînes éditoriales différentes. Hein. On l'a vu, celle de servicepublic.fr, au départ, s'appelait Coperia. Loïc nous a parlé d'Opal. Jean-Philippe, avant, nous a parlé de la chaîne qu'il utilisait à Vetica. Eh bien, je vous propose d'en découvrir une dernière pour cette émission, qui va donc nous être présentée par Thibaut Harib, qui est développeur, entre autres, de LibreCours.net et qui travaille chez Kélis. Cette initiative s'appelle OpenKeys.Science.
IDKey est une chaîne éditoriale qui s'inscrit dans le domaine des sciences naturelles et de la biodiversité. Donc c'est un outil qui permet de concevoir ce qu'on appelle des clés de détermination. Une clé de détermination, c'est un outil, une méthode qui permet de déterminer, d'identifier une espèce du monde du vivant à partir d'une observation en répondant à un certain nombre de questions. Donc en fait, en fonction de la méthode, eh bien, je vais être amené à répondre voilà, d'abord à une première question qui va, donc, par exemple, devant une trace, combien il y a de doigts présents sur la trace. Et en fonction de la réponse, on va me poser une deuxième question, puis une troisième question, etc. Jusqu'à identifier de façon la plus précise possible l'espèce qui est recherchée, donc l'espèce associée à la trace que j'ai devant moi pour une clé de détermination des animaux à partir de leur trace, l'espèce, je ne sais pas moi, d'arbustre pour une clé de détermination d'identification des arbustes à partir par exemple des baies ou ce genre de choses. Pourquoi on fait des clés de détermination ? On fait des clés de détermination à la fois dans le domaine pédagogique pour apprendre à reconnaître des espèces, pour apprendre à reconnaître le monde du vivant qui nous entoure. Ça va être fait par exemple par l'ONF à destination des promeneurs, ça va être fait par un prof de SVT au collège, ça va être fait à l'université pour apprendre à identifier de façon très précise des sous-espèces d'un domaine particulier, etc. On fait également des clés de détermination dans le domaine de la recherche, lorsqu'on a besoin d'identifier de façon très précise des espèces et des sous-espèces. Une clé de détermination, c'est un objet issu du papier au départ, c'est une espèce d'arbre décisionnel. Et évidemment, en numérique, on fait des choses beaucoup plus complexes. On va avoir des clés dites multicritères, dans lesquelles on va pouvoir proposer à l'usager de choisir un critère ou un autre parmi une liste qui est suggérée en fonction des critères, des réponses qu'il a déjà pu apporter. IDKey permet donc d'éviter au concepteur un travail technique, un travail ergonomique. C'est un objet un petit peu complexe à concevoir d'un point de vue numérique. C'est pas juste un document simple, titre, contenu. Mais on a vraiment quelque chose d'un peu plus programmé, d'un peu plus technique. Et donc IDKey permet au concepteur de s'abstraire complètement de ça et de concevoir sa clé uniquement sur des critères de connaissance de la biodiversité et de description des espèces. C'est une chaîne éditoriale qui est conçue avec Scénari et on peut aller consulter les clés de détermination, des clés de détermination qui ont été conçues avec, ou concevoir la sienne depuis le site web openkeys.science.
Upload UTC, Stéphane Creusin, Audrey Guélou.
Alors, donc, on vient d'entendre, je répète, Thibaut Harib de Kélis qui vient de nous parler donc d'IDKey, une utilisation métier bien précise de Scénari, que sont donc les clés de détermination ici dans le contexte de la biodiversité. Stéphane, tu as aussi cité donc un autre membre de Kélis qui est donc directeur technique de Kélis, qui est Sylvain Spinelli, pour nous dire que le WYSIWYM oppose sa démarche donc à celle du WYSIWYG en partant non pas, je cite, en partant non pas du résultat graphique, mais de l'information à véhiculer, de sa signification et de l'intention auctoriale. Alors si je comprends bien cette citation de Sylvain Spinelli, donc le WYSIWYM se fonde donc sur cette séparation, cette dissociation entre le fond et la forme d'un document, par opposition donc au WYSIWYG où le contenu et le style sont mélangés. Or, on l'a vu avec Bruno Bachimon donc il y a deux semaines, la théorie du support et puis la raison computationnelle. Justement avec ce que Bruno Bachimon nous expliquait, eh bien nous avons compris que le sens que l'on donne à une connaissance dépend tout à fait du support d'inscription de cette connaissance et puis qu'en particulier pour les supports numériques, la manipulation logique de l'information inscrite, influence tout à fait notre interprétation, c'est-à-dire le sens qu'on lui donne. Alors, à partir de là, bon Stéphane, je ne vais pas te surprendre avec cette illusion de paradoxe, mais est-ce que les chaînes éditoriales séparent vraiment le fond, c'est-à-dire le sens du contenu, de sa mise en forme numérique ?
Merci beaucoup Audrey de cette question. J'ai effectivement, vous trouverez un certain nombre de traces de mes d'interventions de ma part sur le web qui disent que les chaînes éditoriales servent à séparer le fond de la forme. Et quand comme tu viens de me le rappeler Audrey, c'est évidemment tout à fait faux. Alors c'est une simplification qui permet de comprendre assez rapidement de quoi on parle. Mais en fait, l'idée est plus précisément serait la suivante. L'idée est plutôt de travailler sur plusieurs formes distinctes. Dans le cadre du WYSIWYG, on essaye de tout rapporter à une seule forme, la forme dans laquelle on écrit, qui est aussi la forme dans laquelle on va publier et diffuser l'information. A contrario, dans une chaîne éditoriale, eh bien on va en fait multiplier les formes. On va avoir une forme qui sert à écrire, une forme qui sert à imprimer, une forme qui sert à publier sur le web, une forme qui sert à présenter. Et on pourrait même aller encore plus loin, on pourrait avoir plusieurs formes qui servent à écrire. C'est des choses que l'on travaille également autour, que les chaînes éditoriales Scénari permettent également de travailler. Par exemple, on va avoir une forme pour quelqu'un qui va écrire en ayant une connaissance assez approfondie du modèle, disons quelqu'un qui est expert, et puis on va avoir des formes simplifiées qui permettront peut-être de faire moins de choses ou des choses moins puissantes, mais qui vont être plus rapidement accessibles à des utilisateurs moins experts. Donc cette idée générale, elle va me permettre d'enchaîner ou de revenir sur un concept que j'ai déjà mentionné, qui est celui du polymorphisme. Donc cette idée du polymorphisme, ben, en quelque sorte, je viens de la définir, je vais probablement pas m'y réétendre énormément, hein, mais c'est cette idée que on va avoir associé à un même contenu plusieurs formes, plusieurs façons de voir ce contenu. Et évidemment, eh bien, la forme que l'on utilise pour écrire, c'est une forme parmi d'autres, et elle-même peut être, on peut également avoir plusieurs formes d'écriture, comme je viens de le dire. Il y a plusieurs intérêts à cette idée de séparation des formes, de multiplication des formes. Eh bien, c'est évidemment que l'on va pouvoir optimiser chacune de ces formes en fonction de ce que l'on a envie de faire. Une idée sous-jacente aux chaînes éditoriales, et je vais m'arrêter un tout petit peu pour parler de cela, c'est qu'en fait, la meilleure forme pour écrire et la meilleure forme pour produire un contenu n'est pas forcément la forme qui permet de lire ce contenu de la meilleure façon. Je redis cela de façon un peu plus simple. L'idée sous-jacente, c'est qu'en fait, il pourrait exister deux formes, une qui est optimisée pour la lecture et une qui est optimisée pour l'écriture. Évidemment, c'est quelque chose que l'on ne peut pas penser dans le cadre de la raison graphique, puisqu'on a à ce moment-là une seule forme. Donc on écrit, évidemment, ce que l'on écrit va être ce qui va être lu et vu par la personne à qui l'on va communiquer le document. À partir du moment où on est dans le domaine du numérique, au contraire, on sait que ce que l'on écrit n'est pas exactement ce qui sera vu de l'autre côté. Là, encore une fois, ce que l'on peut chercher à faire à partir de là, ce que va faire le WYSIWYG, c'est tenter d'écrire des programmes qui font en sorte de simuler au maximum ce dont on disposait dans le contexte de la raison graphique, c'est-à-dire une identité la plus forte possible entre ce que l'on écrit et ce que l'on lit. Au contraire, et ça va être le postulat des chaînes éditoriales, on va pouvoir jouer sur ce découplage pour utiliser le calcul de façon à utiliser un environnement d'écriture qui soit optimisé pour l'écriture et un environnement de lecture qui soit optimisé pour la lecture. Alors à la base, c'est un principe assez fécond, assez intéressant. Je précise tout de suite qu'il pose néanmoins un problème important que l'on connaît bien dans le domaine des chaînes éditoriales, c'est que, eh bien, il y a quelques décennies, quelques siècles d'habitude autour de la raison graphique, et donc effectivement, on est plus habitué à écrire de la même façon, enfin écrire en projetant, un rendu final qui va être proche de ce que l'on écrit, que d'écrire en se projetant dans des rendus divers, différents de notre écriture et multiples. Ça demande en quelque sorte un changement de posture lorsque l'on écrit, et ça peut poser un certain nombre de difficultés, de remises en cause. En tout cas, ça mérite d'être clairement repensé lorsque l'on utilise des chaînes éditoriales. Alors, le polymorphisme, je vais donc pas m'y attarder plus longuement, hein. On a, je pense, compris l'idée générale. Je la redis en un mot, on va avoir une source unique de contenu, et à partir de cette source unique, eh bien, on va être capable de diffuser sous des formes et sur des supports différents. Ça peut être également pour des publics différents. Par exemple, on peut très bien avoir des versions plus approfondies pour certains contextes de réception, des versions plus simplifiées pour d'autres contextes. Ça peut jouer également sur quand on parle de support, hein, j'ai pris l'exemple exemple d'un site web et d'un PDF. Ça peut être également des niveaux de précision d'information ou de détails d'information différents. Par exemple, pour une présentation, eh bien, on pourra faire en sorte de masquer une partie du contenu pour rendre le support un peu plus léger, alors que eh bien, si l'on a une version web, eh bien, on souhaitera peut-être que cette version soit plus complète. Donc ça, c'est vraiment le principe de la source unique et de la source unique et du polymorphisme. Alors, y a un autre concept dont j'ai un petit peu parlé, mais un petit peu moins, et je conclurai cette partie là-dessus, c'est le concept de réutilisation et surtout de rééditorialisation. Alors, ce que l'on entend par rééditorialisation, c'est la possibilité de réutiliser des morceaux d'un document pour produire d'autres morceaux d'autres documents, ou pour produire d'autres documents. Alors évidemment, si je vous dis ça, vous dites tous, c'est pas compliqué, on sait tous le faire, hein, on copie-colle un morceau dans un document, donc on copie un morceau dans un document, on le colle dans un autre, et puis on sait réutiliser. Évidemment, on sait le faire, mais à partir du moment où on procède ainsi, eh bien, du coup, on va avoir deux copies de ce morceau de document. Et puisque l'on a deux copies, cela signifie que on va avoir deux cycles de vie différents qui vont commencer à coexister. Très concrètement, si vous copiez, par exemple, un exercice d'un cours dans un autre cours, si ensuite vous êtes amené à modifier cet exercice, par exemple corriger une erreur, eh bien vous allez le corriger à un endroit, mais vous n'allez pas le corriger sur l'ensemble des copies qui ont été faites de cet exercice. Cela veut dire que petit à petit, plus vont se multiplier les copies, eh bien plus on va avoir de versions différentes de nos contenus. Et parmi ces versions, eh bien, il y en a certaines qui vont être justes, au sens où on les aura correctement mis à jour au fur et à mesure, et d'autres qui ne le seront pas. Une alternative à cela, que l'on connaît très bien dans le domaine des données, hein, les gens qui travaillent sur des données et sur des bases de données savent que l'on va éviter au maximum la copie des données, et on va en quelque sorte faire en sorte que chaque donnée n'existe qu'à un seul endroit, copier une seule fois. Eh bien, on va pouvoir appliquer cela aux documents en créant une base de documents ou une base de fragments documentaires et en faisant en sorte que lorsque l'on souhaite réutiliser un morceau de document dans un autre document, eh bien, on ne va pas le copier, mais on va utiliser une référence vers ce fragment. Alors, le concept n'est pas très, très facile à illustrer purement oralement, mais je vais évoquer quelque chose qui devrait vous parler. Première chose, c'est que derrière ce concept se cache un terme qui a été forgé par Ted Nelson dans les années 70 et qui s'appelle transclusion. L'idée est que, alors, ce que l'on connaît tous, c'est la copie. Ce que l'on connaît tous également, c'est le lien hypertexte. C'est-à-dire, je suis dans une page, j'appuie sur un lien et je convoque une autre page. Le principe de la transclusion, c'est que on va être dans une page, on va être dans un document, on va avoir un lien vers une autre page ou un autre document, mais en fait, ce lien ne va pas consister à faire de la navigation d'un document à un autre. Il va consister à convoquer le document qui est derrière le lien, et à venir l'insérer dans la page, mais en fait comme s'il faisait partie de la page. Alors c'est un concept qui n'a pas été énormément utilisé au début du web, mais qui l'est énormément aujourd'hui, peut-être que vous avez compris où je voulais en venir, tout simplement dans toute l'intégration des vidéos, dans toute l'intégration des médias audio. Lorsque vous intégrez une vidéo présente par exemple sur Peertube, eh bien vous allez faire un lien vers cette vidéo, mais d'un point de vue du rendu, vous allez avoir la possibilité que la personne qui consulte le document, eh bien, pense que la vidéo fait partie intégrante du document. Dans le rendu final, la vidéo fera partie du document. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails, mais on va pouvoir, dans les chaînes éditoriales, découper les documents en plein de petits morceaux. Hein, imaginez les rapports que vous produisez, les notes, etc., comme étant découpés en morceaux pour chaque partie, pour chaque sous-partie. Eh bien, on a la possibilité d'aller faire des liens entre ces parties sous-parties, de les réorganiser de différentes façons, et ensuite, eh bien, d'avoir un rendu qui va en quelque sorte donner l'impression que tout fait partie du même document, même si, en fait, on n'a procédé à aucune duplication. Alors, je vais pas aller plus loin autour des descriptions de ces avantages particuliers liés à l'usage de la chaîne éditoriale. Pour s'en faire une meilleure idée, eh bien, à un moment, il faut le tester. Donc, je rappelle simplement pour terminer, et ensuite, je redonnerai la main à Audrey s'il y a une question autour de cela. Eh bien, donc, les principaux avantages, en quelque sorte, que l'on va tirer de cette façon de faire par rapport au traitement de texte, c'est le polymorphisme et la rééditorialisation.
Oui, alors en effet, Stéphane, j'ai deux questions à te poser, si tu veux bien. J'en ai une de Guillaume sur Mattermost et puis une que je veux bien ensuite te poser ensuite. Alors la question de Guillaume, c'est une question qui parle de Scénari. Il te demande si utiliser Scénari revient à remplir un texte à trous.
Est-ce que ça revient à remplir un texte à trous ? Alors, au sens où on entend habituellement texte à trous, non. C'est-à-dire que un texte à trous, c'est un texte dans lequel il y aurait une partie du contenu et dans lequel il faudrait compléter avec une autre partie du contenu. Donc si on prend l'exemple des supports pédagogiques au Bénin dont nous parlait Loïc tout à l'heure par exemple, eh bien ça supposerait qu'il y ait une partie du contenu, une partie des cours qui soit déjà écrit, qu'on vienne compléter le reste des cours. Donc en ce sens, c'est pas du tout ça. L'idée c'est qu'on va avoir... lorsque l'on va utiliser une chaîne éditoriale, ce qui va nous être apporté par la chaîne éditoriale, c'est des façons de structurer l'information. Donc ce que cela va nous proposer, c'est est-ce que l'on souhaite mettre un exercice ? Est-ce que l'on souhaite mettre un morceau de cours ? Est-ce que l'on souhaite donner une définition ? Et ensuite, eh bien, on va venir remplir chacune de ces cases, chacune de ces éléments de structure, chacun de ces éléments de structure avec du contenu. Mais il y a bien une séparation entre... ce que nous apporte la chaîne éditoriale, c'est-à-dire de la structure, et ce que nous nous apportons, c'est-à-dire le contenu.
Merci Stéphane. Alors, à mon tour, je voudrais te poser une question sur Librecours, en fait, voilà, parce qu'on dit bien en début d'émission que vous pouvez retrouver les supports sur Librecours.net, et c'est aussi le site sur lequel les étudiants de WE1 déposent leur rendu d'exercice. Alors, Librecours est construit avec les technologies Scénari, et puis en particulier avec le modèle Opal, et puis les cours qu'on y trouve, donc, le cours de WE01 que tu donnes aujourd'hui, les cours donc, qui sont sur Librecours utilisent les principes que tu viens de détailler. Je rappelle rapidement le polymorphisme, donc le fait que tu écrives le cours une fois dans Scénari et puis qu'ensuite on puisse le consulter au format web, PDF ou bien en format de présentation. La réutilisation, le fait que le cours soit découpé en fragments, regroupé en modules dont certains ont été créés par d'autres UV, pour d'autres UV ou API de l'UTC, et ces fragments sont donc réutilisés dans le cours de WE01. Et puis il y a aussi le concept de rééditorialisation qui combine donc les deux premiers principes en permettant par exemple le réagencement des fragments au sein d'un nouveau cours, c'est-à-dire WE01. Alors, ma question, c'est référence à un autre libre cours que tu as ouvert tout récemment, c'est-à-dire hier. Tu as ouvert un livre court à l'occasion du confinement. Alors, je précise que tous les livres courts sont ouverts, mais ce livre court est une initiation à la programmation avec JavaScript qui sera animée par des membres, qui est animée par des membres des associations Picassoft et Framasoft. Ma question, c'est est-ce que tu as pu ouvrir ce livre court aussi vite, notamment parce que tu as pu réutiliser et rééditorialiser des modules sur JavaScript que l'on a, par exemple, utilisé dans la troisième séquence de WE01.
Et oui, tout à fait, Audrey. Effectivement, l'idée générale, c'est de disposer d'une base de contenu que l'on va pouvoir ensuite, eh bien, rebricoler, en quelque sorte, réaménager. Alors, ça, d'une certaine façon, si j'avais eu une base de contenu bien organisée en dehors d'une chaîne éditoriale, j'aurais pu le faire aussi avec des morceaux d'HTML. J'aurais pu les récupérer, les bricoler, les agencer. En fait, le gain est plus subtil que ça, donc... Néanmoins, hein, les possibilités de manipulation font quand même que, effectivement, on a pu en 24 heures monter une formation de 40 heures avec la recomposition d'une vingtaine de modules. Donc, effectivement, ça permet de faire des choses de façon très performante. Mais en fait, pour moi, le gain, il est même plus subtil que ça. Il est que dans ce travail que l'on va faire pendant un mois, ça a commencé. Hein, il y a des erreurs qui remontent. Il y a des endroits où on s'est trompé. Il y a des endroits où on a mal expliqué. Il y a des endroits où on aurait pu faire mieux. Il y a des endroits où on a des nouvelles idées qui nous viennent. Eh bien, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de la formation, on améliore ça, on corrige, on rajoute un exemple, on modifie un exercice, etc., etc. Et donc, l'intérêt pour moi principal, il est que toutes ces améliorations que l'on va faire pendant le cadre de ce libre cours spécial confinement, en fait, elles vont bénéficier aux autres morceaux de documents qui réutilisent le même type, qui réutilisent les mêmes fragments à d'autres endroits, dans d'autres contextes. Donc, l'intérêt, c'est un des intérêts premiers pour moi, c'est cette amélioration continue des contenus qui font que, effectivement, aujourd'hui, j'utilise encore des morceaux de cours que j'ai écrits il y a 20 ou 25 ans, mais pas exactement dans le même état, puisqu'effectivement, ils ont été améliorés tout au long de ces années. On arrive au terme du court émission. On a pas mal parlé de scénarii pendant cette séquence comme illustration du concept des chaînes éditoriales. Je précise que on peut évidemment reconstruire soi-même des chaînes éditoriales à partir de langages de programmation, à partir d'autres briques technologiques. Donc il s'agissait évidemment d'illustrer les choses avec cette technologie. Alors évidemment, ce n'était pas du tout un choix innocent, puisque, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est né à l'UTC. J'ai été moi-même très fortement partie prenante de ce projet-là. Donc le choix n'est pas du tout neutre. Mais néanmoins, à retenir, il y a les principes que j'ai posés sont tout à fait réalisables et implémentables avec d'autres technologies. De la même façon, je l'ai beaucoup appuyé sur XML. C'est une des technologies les plus adaptées, mais on peut également envisager, bien entendu, d'autres langages, d'autres façons de structurer les choses. Eh bien voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez continuer de les poser à travers notre équipe Mattermost, donc sur team.picasoft.net. Vous pouvez nous réécouter sur graphite.net, sur aperi.tube. Et puis, si vous avez envie d'approfondir les choses de façon concrète, eh bien, vous pouvez aller voir des exercices pour tester Scénari sur librecours.net. Et la semaine prochaine, eh bien, on parlera droit d'auteur et culture libre.
Upload, l'université populaire du libre, sur Graphite.